France Inter. L'heure philo. Bienvenue dans l'heure philo, Lilian Allôme à la réalisation, Chantal Le Montagnier à la préparation, Djoubaka au choix des disques, Eloïse Moreau à la console, le lièvre et la tortue, en tout cas un extrait de Jean de La Fontaine.
Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui cependant méprise une telle victoire. Tient la gageure à peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait. Mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. « Eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison ? De quoi vous sert votre vitesse ? Moi l'emporter ? Et que serait-ce si vous portiez une maison ?»
L'heure philo. Patricia Martin sur France Inter.
Hâtez-vous lentement, recommandait de son côté Boileau au poète. La lenteur, que de critiques à son endroit, et pourtant la lenteur est féconde, aussi allons-nous nous employer à la réhabiliter. Mathias Leboeuf est philosophe, il signe un petit traité de la lenteur, publié chez Guy Trédaniel, éditeur. Laurent Vidal est historien, son essai Les Hommes Lents est sorti chez Flammarion. Quel vilain miroir de nous-mêmes nous renvoie la lenteur pour que nous soyons à ce point amenés, d'une manière générale, à la détester, Mathias Leboeuf.
Ah ben ça, c'est la grande question. C'est pourquoi la lenteur est devenue la part maudite, notre part maudite à chacun. Pourquoi on ne la supporte plus, pourquoi elle est insupportable, alors que justement, ça n'a pas toujours été le cas. De quoi vous sert votre vitesse, La Fontaine et puis qui reprend un thème antique finalement, Festina lente, acte-toi lentement. Donc la grande question, qui est une question que reprend d'ailleurs Milan Kundera avec beaucoup de brio dans son ouvrage La lenteur, qui est le premier ouvrage qu'il écrit en français. La question qui travaille cet ouvrage, qui est un roman, enfin un roman court, c'est un... Comment avons-nous perdu le plaisir de la lenteur ?
Et d'ailleurs, il fait un parallèle. En tout cas, il lie la lenteur au désir.
Exactement, il lit la lenteur au désir. Alors, à travers la figure de Vivant-Dénon, il fait ça avec brio. Pourquoi ? Notamment parce que la lenteur a ce point commun avec le désir d'avoir toujours été pensée comme un manque. Elle est la marque du manque, et la marque du manque de quoi ? La marque du manque de vitesse, bien sûr. Ou plutôt, pour être plus précis, la marque du manque de rapidité. Parce que la lenteur est une vitesse, et le langage courant, quand on prend pas le temps de s'attarder sur les mots, on a tendance à dire que justement la lenteur est un manque de vitesse. Mais non, la lenteur est un manque de rapidité et non pas un manque de vitesse. C'est une vitesse et ça peut être une très belle vitesse en plus. Donc effectivement, Kundera lie la question de la lenteur aux questions du désir et aux questions du retard du plaisir, mais en posant cette question de pourquoi on a perdu, justement, pourquoi il faut toucher au but immédiatement, pourquoi on a perdu cet art et cette extase des tours et du détour que peut être le désir et que pratiquer avec brio les libertins. pour aller tout droit, et ça c'est un peu la marque de la modernité, puisque ce que stigmatise, comme on dit, ou ce que dépeint Milan Kundera, c'est l'homme moderne qui a perdu ce plaisir de la lenteur.
En fait. Alors vous parlez de modernité, Laurent Vidal, si la lenteur n'a pas bonne presse, donc la vitesse fascine, c'est une force de production, ça vous le dites dans votre essai, et d'entrée de jeu, vous parlez d'un film qui apparemment vous a marqué, c'est Les Temps modernes, de Chaplin.
Absolument. La scène est connue. Tout le monde voit Chaplin, Charlot devant sa table de montage, en train de serrer des boulons, et puis soudain attiré par une mouche. Enfin, il n'y arrive plus. Il perd. Il essaie. Il se rapproche. Et puis finalement, il est avalé par l'immense roue crantée. Et généralement, tout le monde se souvient de cette scène et oublie. La scène suivante, c'est-à-dire quand il est recraché par la machine et que soudain, là, il est comme, alors qu'il était pâteau d'une certaine manière devant sa table parce que c'est ce rythme imposé par la cadence de la table, outil, quoi, lui est étranger. Hein, ses gestes, il ne les connaît pas,
etc. Mais même quand il sort d'ailleurs, après, il voit les boutons d'une...
Et quand il sort, il est comme libéré. Il y a quelque chose d'une grâce poétique.
Mais il suit une femme avec des boutons.
qui a des boutons à sa jupe, et il essaye de les serrer aussi. Oui.
Mais on voit bien que la lenteur, évidemment, il se moque de cette vitesse-là, Charlie Chaplin, mais la lenteur est associée quand même à une fragilité sociale, à un manque de productivité.
Alors, ça, c'est tout l'enjeu de mon enquête historique, c'est-à-dire comment, finalement, cette lenteur va devenir une sorte... moi, je travaille plutôt sur l'adjectif lent. Ce qui m'intéresse, comment va-t-on désigner quelqu'un en lui disant « vous êtes lent ». Et on passe du quelqu'un, et c'est là où l'historien entre un petit peu en scène, moi, c'est pas les individus, c'est plus les groupes sociaux. Mmh. Et comment, petit à petit, on finit par désigner des groupes sociaux. Alors, tout à l'heure, avec Chaplin, c'est les ouvriers, d'une certaine manière. Les ouvriers que la bourgeoisie, qui elle, eh bien, est une bourgeoisie industrielle liée à ce capitalisme industriel, eh bien, désigne comme inadaptée au rythme des temps modernes. Mais on va en trouver, et je me suis amusé dans mon ouvrage à remonter un petit peu, à trouver ce fil généalogique. Comment l'Europe va petit à petit, les Européens, parce que cette discrimination par la lenteur, elle n'est pas n'importe où,
absolument.
Elle n'est dans l'Europe chrétienne.
Et vous citez d'ailleurs, c'est un pays qui est cher à votre cœur, le Brésil, vous citez Milton Santos, qui est un géographe brésilien, et qui montre bien que la force, elle est du côté des lents.
Absolument. des lents dans le sens où, alors là, pour l'expliquer, je suis obligé de revenir un petit peu ou de sauter quelques périodes, mais étant donné que nous vivons dans un monde où le rythme dominant est celui de l'accélération, c'est non seulement le rythme dominant, et je dirais même c'est le rythme presque unique. Et aujourd'hui, ce rythme de l'accélération, il va vers le rythme de l'instantanéité. Eh bien, ceux qui n'entrent pas dans ce rythme ont la possibilité d'expérimenter d'autres rythmes. Et donc, cette force du côté des lents, c'est la force du côté de ceux qui ont la possibilité d'expérimenter d'autres rythmes.
Mais Mathias Leboeuf, est-ce qu'il y a un concept au fond de la lenteur, un personnage conceptuel de l'être lent? D'un point de vue philosophique, donc.
Alors, la lenteur, philosophiquement, c'est pas un objet philosophique pur, justement, ouais. Parce que il y a pas de concept de lenteur. Et moi, ce que j'ai essayé de faire sur deux niveaux, c'est premièrement, effectivement, produire, un peu comme disait Deleuze, produire du concept. Et qu'est-ce que la lenteur? En cherchant à penser la lenteur dans sa propre immanence. C'est-à-dire, en cherchant à penser la lenteur, non pas en la rapportant à un manque de vitesse, et en la définissant par rapport à la rapidité et à la vitesse, mais en la pensant par et pour elle-même. Ça, c'est la première chose. Et puis, à travers ce concept de lenteur, définir justement ce qu'est l'être lent. Et pourquoi l'être lent agace? Pourquoi il est insupportable? Mais en même temps, de quoi il est porteur? comme valeur, comme concept aussi.
Et pas comme un mou, un lambin, un traînard.
Exactement, enfin, tout, pas le défiant ou un indolent.
Et
c'est un travail complémentaire de celui de Laurent Vidal, puisque effectivement la lenteur, c'est vraiment la rapidité, c'est la cadence qu'on nous impose et qu'on nous impose de l'extérieur. Donc, comme vous l'avez dit, il y a une fragilité sociale, et cette fragilité sociale, on peut aussi la penser du côté de l'individu. Pourquoi l'être lent inquiète? Pourquoi l'être lent agace? C'est parce que l'être lent ne délivre rien. C'est celui qui ne délivre pas encore, qui ne produit pas encore, ou qui produit pas suffisamment rapidement, qui n'a pas encore donné de résultat. Celui qui pense, celui qui est en train de chercher, le chercheur est toujours trop lent. La fameuse « je ne cherche pas, je trouve », quand on trouve toujours immédiatement, quand on cherche, c'est toujours très lent. En fait, la fragilité sociale, bizarrement, peut révéler une force individuelle. Et l'être lent est une forme de résistant, en fait, quelque chose.
Je me risque à vous poser la question à tous les deux. J'imagine que ce sujet ne vous a pas intéressé par hasard. Je vais donc vous demander si, à titre personnel, vous êtes lent, vous vous considérez comme lent, ou d'autres vous disent quelquefois que vous êtes quelqu'un de lent. Alors, qui s'y risque le premier ? Mathias Leboeuf.
Moi, je vais vous répondre bien sûr. Bien sûr que je suis lent. Et je vais vous dire pourquoi je réponds bien sûr. Parce que nous sommes tous lents. Nous sommes tous lents et rapides. C'est pas soit être rapide, soit être lent. Nous sommes tous lents, sauf qu'on n'assume pas notre lenteur. On n'assume pas nos forces lentes. On les redoute. On en culpabilise. On est tous quelqu'un qui ne serait que rapide, qui ferait tout rapidement, il aurait des sérieux soucis. Il serait peut-être amené au burn-out. Moi, je crois qu'on est tous à la fois rapides et tous lents, mais qu'il y a une part qui est une part maudite, c'est notre part lente qu'on a du mal à assumer. Alors, pour vous répondre, moi, par exemple, je suis un lecteur lent, et j'ai longtemps culpabilisé de ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand d'autres lisent 7 livres, j'en lis 4, et je raconte même que plus un livre me plaît,
plus je le déguste,
et plus je suis lent à le lire. Et puis, à un moment donné, je me suis, aperçu que, il fallait pas que je culpabilise de ça, que, justement, j'étais lent, mais que j'en faisais mon miel, et que le texte et l'épaisseur du texte me pliaient aussi à son tempo, et que c'était pas si grave que ça.
Et que vous êtes d'accord avec Flaubert quand il dit, lisez Montaigne, lisez-le lentement.
Exactement.
Et recommencez.
Formidable conseil de Flaubert à Madame de Champy.
Laurent Vidal.
Et Nietzsche disait la même chose. Il parlait de la lecture lente, Nietzsche. Ouais. Alors moi, je ne suis pas lent. Et personne de mon entourage vous dira que je suis lent, même si je tends à le devenir.
C'est-à-dire que ça vous demande un effort.
Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la lenteur en soi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la lenteur en soi.
Ouais.
C'est la capacité à changer de rythme au cours d'une journée, au cours d'une année, au cours d'une vie. Il y a des moments qui doivent être faits pour être vécus lentement. Il y a des moments qui sont faits, au contraire, pour être où il faut être assez rapide, parce qu'il faut répondre de manière rapide. Il faut. Il y a des injonctions parfois dans le cadre du travail. Il faut
donc même chez soi, si on a une tonne de passages à faire,
etc.
On va pas traîner, on va le faire vite.
Voilà.
Je ne sais pas si vous repassez votre linge.
Au printemps, Tipaza est habité par les dieux. Eh bien là, il faut prendre son temps. Mais parfois, si on est à Tipaza en plein hiver ou sous la pluie, je ne suis pas sûr qu'en prenant son temps, on trouvera la même chose.
Jean Dormesson, c'était sur France 2, au micro de Laurent Delahousse.
Non, je n'ai pas de monde, pas de portable, pas de fax, pas de mail. Alors le mail, c'est très amusant, parce que les mails m'arrivent par l'académie, qui me les envoie par la poste.
Ah.
Alors ils arrivent avec
un petit peu décalé.
Un jour de retard.
Mais vous luttez contre cette tyrannie de l'urgence, finalement, et du temps.
Le temps est quelque chose d'extraordinaire. Et alors...
Et aujourd'hui
évidemment, la montre, ça me trouble. Le temps, ça me trouble.
Aujourd'hui, on demande à François Hollande de réagir, de surréagir, d'être finalement Nicolas Sarkozy.
On surréagit constamment. Il faut prendre le temps de réfléchir, il faut prendre le temps de la lenteur, et il ne faut pas se laisser aller à cette catastrophe. Je pense qu'il faut ne pas aller trop vite. lente. Je pense qu'il faut faire l'éloge de la lenteur, l'éloge de la maturation.
Voilà. Et l'éloge de la lenteur, d'ailleurs, on se souvient du livre de Pierre Sansot, que à titre personnel j'ai connu et qui était quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui avait écrit un essai du bon usage de la lenteur. Là, on se dit que ça demande effectivement un effort. Il faut lutter contre ces injonctions et cette tyrannie du temps, des autres et de la façon de vivre.
Alors, il faut lutter. Et encore une fois, il faut savoir dans quelle position se trouvent les personnes. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut regarder ça en termes de catégorie, classe sociale, etc. Il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de cela. Et parce qu'ils sont pris dans un rythme du travail qui est un rythme qui s'impose à eux et sur lequel ils n'ont pas la possibilité de jouer. Donc tout le monde n'a pas cette possibilité, notamment dans le cadre du travail. J'insiste, parce que c'est vraiment dans le cadre du travail que finalement cette discrimination, dans le cadre, pour être plus précis, de la mise au travail des sociétés chrétiennes à la fin du Moyen-Âge. On met au travail les sociétés chrétiennes. On explique que perdre son temps, c'est un péché envers Dieu, que non seulement on ne peut pas gaspiller son temps, mais il faut l'utiliser de manière efficace. C'est dans le cadre de ce travail. Et aujourd'hui, il se trouve qu'il y a des personnes qui, dans le travail, n'ont pas cette possibilité. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est ces gens-là qui ont été qualifiés de lents, alors qu'ils ne le sont pas plus qu'un autre.
Mathias Leboeuf.
Oui, je voulais revenir sur ce que disait Laurent, ça me paraissait très juste, et qu'en fait, la lenteur est pas forcément la réponse à tout, et que il y a plein de situations où être lent, c'est catastrophique. C'est-à-dire que moi, j'ai pas cherché justement à faire un éloge de la lenteur, parce que ça serait ériger la lenteur en vertu. Et je crois pas que la lenteur soit une vertu en soi, cette espèce d'évangélisme de la lenteur, alors bien sûr, on le comprend, mais je le partage pas pleinement, je m'explique. En prenant vraiment souvent la philosophie est éloquente quand elle prend des situations extrêmement ras des pâquerettes et extrêmement concrètes. Vous avez quelqu'un qui fait une crise cardiaque devant vous. Vous dites, moi je suis un être lent, je vais réagir lentement. Ben non, et il faut réagir prestement. Et là, pour le coup, c'est la rapidité qui est convoquée. Donc, il y a tout un mouvement qui a tendance à présenter la lenteur comme une panacée. Soyez lent, vous allez voir, ça va changer votre vie. Et comme si la lenteur était la solution à tous nos problèmes. Absolument pas. Je crois qu'il faut se garder, encore une fois, d'ériger la lenteur en valeur absolue. Néanmoins, effectivement, il y a une chose qui est là, pour le coup, on est sur un versant social, qui est que la lenteur, bizarrement, est une forme de luxe aujourd'hui. Chose étrange, quand le petit traité est sorti, je vais raconter une petite anecdote, mais qui est assez significative. Je poste un post sur le petit traité sur LinkedIn, réseau professionnel, et j'ai un entrepreneur qui me dit « Oh, la lenteur !» Alors voilà, ça c'est vraiment un truc de prof, un truc de gauchiste, un truc de fonctionnaire, la lenteur, mais est-ce que vous croyez que moi, je peux me permettre de réfléchir à la lenteur ? Est-ce que je peux me permettre d'être lent ? Ben non, parce que moi, je suis entrepreneur et je n'ai pas ce luxe que vous avez de pouvoir me permettre la lenteur. Et sa remarque était extrêmement intéressante. Pourquoi ? Parce que justement, la lenteur est perçue comme un luxe, alors un luxe de gauchiste, certainement, mais surtout parce que il pensait ne pas pouvoir s'octroyer la liberté d'être lent. Et je crois que ce qui est extrêmement important, c'est que ce luxe qui est accessible à tout le monde, à contrario de certains autres luxes, on peut chacun décider au moins de ralentir et de chercher ou de rechercher nos plages lentes. Et quand on fait ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'assez positif.
Mathias Leboeuf et Laurent Vidal sont nos invités, vous l'aurez compris, nous parlons de la lenteur. Tiens, voilà un chanteur qui va vous faire plaisir, Laurent Vidal, c'est Antonio Carlos Jobim, il est brésilien.
Salut. Ooh. la di la 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 di la ya la la. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira e tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar. Tristeza não tem fim.
Ah, on en voudrait encore. Laurent Vidal, tout à l'heure, on est passé un peu vite, mais vous disiez que les lents étaient des gens peu considérés, en tout cas par le monde occidental. Et dans votre essai, Les Hommes Lents, vous parlez de la découverte du Nouveau Monde. Vous racontez comment un certain nombre d'hommes, dont par exemple les Indiens, étaient considérés comme lents, c'est-à-dire inactifs, paresseux, non productifs.
Oui, parce que tout à l'heure, j'expliquais que à la fin du Moyen-Âge se rencontrent deux discours, un discours, si vous voulez, religieux, pour qui encadre cette société chrétienne et qui fait, par exemple, du péché de la paresse, hein, qui fait de la paresse un péché, et la paresse, entre autres, est associé à la lenteur pour certains théologiens. Et puis, en même temps, se met en place un discours économique avec ce discours du capitalisme marchand qui dit qu'il faut, de manière prompte, faire les échanges. Et lorsque se rencontrent ces deux discours, c'est à la fin du XVe siècle, quand, justement, l'Europe découvre le Nouveau Monde. Et là, eh bien, les Européens débarquent dans des pays où ils vont des gens à moitié nus, allongés sur des hamacs.
Des hamacs, qui plus
est. Et qui n'ont rien, qui n'accomplissent rien en termes de rythme de travail. Donc, d'emblée, on les taxe de paresseux, etc. Et quand, une fois qu'on aura dit, bon, c'est plus possible, on ne peut pas les faire travailler, allons chercher ailleurs une autre main-d'œuvre. On va chercher en Afrique, et cette fois, ce sont les esclaves africains qui vont être taxés d'indolents. Donc, en fait, on est toujours le lent de quelqu'un. C'est ça qui importe. Et l'Europe a mis en place cette désignation péjorative de tout un ensemble de groupes. Après, ce seront les colonisés, hein, qui vont être aussi taxés d'indolents. Cette lecture rythmique, finalement, du monde.
Ouais. Alors, au sujet de la paresse qui est devenue un péché, je voudrais qu'on écoute Joseph Folliat, aussi connu sous le pseudonyme de Frère Genièvre. À mon avis, il devait bien aimer ça, le Genièvre. Il était donc prêtre, militant et sociologue. Voici ce qu'il dit, c'était en 1963, dans le magazine du dimanche.
Je devrais aujourd'hui, mes chers auditeurs, pour employer l'expression populaire, vous relever du péché de paresse. Mais vous me voyez très embarrassé. Car au fond, sauf pour la pratiquer occasionnellement, je ne sais pas trop ce que c'est que la paresse. Comment la définir? Où finit exactement le repos, qui est un besoin et qui est légitime? Et où commence la paresse, qui est un abus de ce repos? Je pense que l'introduction du péché de paresse dans la liste des péchés capitaux est une chose, du moins d'après ce que m'ont dit les théologiens, relativement récente. Autrefois, la liste des sept péchés ne comprenait pas la paresse. Elle était remplacée par ce que les moralistes appelaient l'acédia. Et il est assez difficile de traduire en français courant ce mot d'acédia. On devrait parler de cafard, mais une sorte de cafard très particulier, un cafard spirituel, un cafard qui aboutit à l'inertie, à la démission, à l'aquabon. Peut-être l'introduction du péché de paresse dans la liste des 7 péchés capitaux, introduction récente, est-elle une contamination de ce qu'on pourrait appeler la morale bourgeoise?
Alors, de péché face à Dieu, la paresse devient en fait un péché face à la société occidentale. Hein, on est bien d'accord, hein, Mathias Leboeuf.
Oui, ça remonte à très loin, ça remonte aux Grecs, je crois, et à l'Antiquité grecque qui finalement a instauré cette civilisation de la compétition. Et
mais Platon n'aimait pas la... Ça, ben vous le racontez dans votre essai, il n'aimait pas la lenteur.
Non. Il y a un texte formidable qui est dépositaire de ça, qui est vraiment la trace de quelque chose de purement occidental, c'est le Charmide, dans lequel Platon explique justement que, ben, notamment pour les mouvements du corps, la beauté et du côté de la vitesse, de l'agilité, alors que au contraire, la lenteur, c'est la gêne. La lenteur, c'est toujours le corps empêché, ça a quelque chose de laid, et ça se double sur le plan de l'esprit, puisque celui qui apprend vite et brillamment, alors que celui qui est lent, c'est toujours celui qui est un peu long à la détente, qui est un peu long à comprendre et qui est un peu soupçonnable de ne pas avoir toutes ses facultés, qui est, pardon de le dire comme ça, mais qui est un peu con-con, quoi. Donc le lent, il y a toujours une dévalorisation, et ça, effectivement, c'est extrêmement archaïque. Et je voulais rebondir sur ce que disait Laurent. Effectivement, on est toujours le lent de quelqu'un. Et moi, je dirais même, le lent, c'est toujours l'autre. L'autre, c'est toujours l'autre qui est lent. Et vous savez pourquoi c'est toujours l'autre qui est lent et pourquoi la lenteur de l'autre agace alors que notre lenteur à nous ne nous agace pas? Bah, tout simplement parce que notre lenteur ne nous fait pas attendre, alors que la lenteur de l'autre fait attendre. Et derrière ça, il y a la question de l'attente, et on ne supporte plus, particulièrement aujourd'hui, d'attendre. On est dans l'ère absolue de l'immédiateté, donc il y a un insupportable, la lenteur est toujours porteur d'un insupportable qui convoque l'attente.
Mais d'un mot, là, je suis désolée, Laurent Vidal, je vais vous presser, mais le fait que cette lenteur devienne un péché, ce péché est lié à l'oisiveté, et ça aussi vous le montrez bien, le paresseux en fait, donc ça devient de la paresse, donc, et le paresseux il souille son environnement.
Oui, parce que il y a tout un ensemble de autour de ces péchés capitaux, il y a tout un ensemble de d'artistes qui sont convoqués, donc par exemple Bruegel qui a dessiné justement Acedia, femme mollement allongée sur un âne, et on représente finalement la lenteur, hein, et la paresse par un certain nombre d'animaux dont l'escargot et la limace. Mm-hmm. Et la limace, c'est typiquement, et l'escargot quand il se déplace, eh bien, il laisse des traces. Mmh. Eh bien, le lent, lui aussi, il souille la société. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on a derrière cette désignation de l'autre comme lent, l'idée que, en plus, il empêche la société d'être correcte et efficace. Donc, il y a ça qui est, je crois, qui est important. Mais je voulais, en parlant de souiller, je voulais revenir sur justement la lenteur dont on parlait tout à l'heure de Milan Kundera. Parce que je crois qu'on peut faire une lecture sociologique d'une certaine manière. Milan Kundera, c'est le libertinage, vous l'avez dit, et c'est aussi l'aristocratie qui résiste à la montée en puissance de la bourgeoisie. C'est-à-dire que la bourgeoisie, elle a installé de partout des horloges. Hein, l'horloge bourgeoise contre l'horloge du clocher, qui dicte le temps marchand, et ce temps marchand qui est en train de dicter le temps de la vie sociale. Et, eh bien, l'une des formes de... Je voudrais pas utiliser trop rapidement le mot résistance, mais en tout cas de réticence, on va dire, à ce temps marchand, c'est le libertinage. Et qui retrouve-t-on dans le libertinage ? L'aristocratie, dépossédée, en quelque sorte, du temps religieux.
Et on peut même remonter à plus loin, puisque ce temps marchant, c'est le temps du négos, le neg osium, et le temps noble, c'est l'osium, c'est-à-dire un temps qui n'est pas... qui est un temps libre et qui est consacré au souci de soi. Donc il y a une vitesse du temps, le négoce, qui est effectivement un temps cadencé, avec un tempo qui est spatialisé, qui est comment dire, métrique. Et puis il y a un autre temps, le temps de l'osium, celui qu'on consacre à soi, qui est un temps beaucoup plus long et lent, et qui correspond à ça. C'était le temps noble, quasiment le temps aristocratique.
Absolument. Alors écoutez, Claude Régis, je le rappelle, enfin je le dis pour les plus jeunes qui nous écoutaient, Claude Régis, tout le monde ne le connaît plus forcément aujourd'hui, ça a été vraiment une référence dans le monde du théâtre, un grand metteur en scène qui a notamment créé en France les pièces de Pinter, de Handke, qui a fait connaître l'œuvre dramatique de Marguerite Duras, de Nathalie Sarraute. Et Claude Régis, il a renouvelé le jeu des acteurs, et on peut dire qu'au théâtre, l'esthétique n'est plus la même après lui. Et voici ce qu'il dit de la lenteur au théâtre.
La lenteur calme les êtres. En étant calme à l'intérieur de soi-même, on s'ouvre. Et en étant ouvert, on peut recevoir tout ce qui vient de l'extérieur et en même temps émane de vous des choses qui circulent, quelquefois même un peu inconsciemment, indépendamment de la volonté. Et c'est pour cette respiration libre qui évidemment nous ouvre et nous met en relation avec l'univers et pas seulement avec nous-mêmes, fermés sur nous-mêmes ou avec juste un partenaire dans le sens du dialogue. Sur les plateaux, on voit tout le temps des gens qui vont très vite, qui bougent beaucoup, qui parlent très vite, mais ils savent pas de quoi ils parlent, ils savent pas d'où ils parlent. Alors voilà, ça s'agit dans le désordre, ça parle dans le désordre, on n'entend pas la source de la parole. Et on n'entend pas non plus les échos au-delà de la parole. Donc c'est pour ça qu'il m'a paru très important de ralentir le débit pour le dénaturaliser d'abord et avant tout, comme le ralenti dénaturalise le mouvement, évidemment. Mais aussi parce que, à travers ce ralenti et à travers la décomposition du langage, on s'aperçoit que beaucoup de sens nous parviennent, qui ne sont pas le premier sens grammatical évident, que des sons viennent des images, que les images parlent, que les images muettes parlent.
Claude Régis, donc c'était chez Bernard Pivot en 1999. Mathias Leboeuf, vous êtes assez ému de l'entendre.
Oui, je suis très ému parce que j'ai connu Claude. J'ai eu l'infinie chance de le croiser, de l'apprécier. Je pense qu'il m'appréciait un peu aussi. Et de connaître son travail. Moi, je l'ai connu à un moment donné où il travaillait beaucoup sur un auteur irlandais qui s'appelait Gregory Moton. Je l'ai découvert à ce moment-là. Et quand on va voir, alors effectivement, le travail théâtral et scénographique de Claude Régis, il y avait une espèce de dilatation du temps. Et au départ, d'ailleurs, je dois avouer que les premières pièces que j'ai vues de Claude,
c'était déconcertant.
C'était très déconcertant. C'était même le phrasé de ses acteurs. Ça crée une écoute qui est incroyable, qui est complètement différente. Et c'était voire même pénible d'ailleurs quand on n'est pas habitué. La première impression, mais c'est pas facile, très dur.
Il n'a jamais monté en attendant Godot.
Je ne crois pas.
Je
ne crois pas. Et d'ailleurs, lui-même était un être assez lent, mais au sens positif du terme. C'était quelqu'un qui était même dans ses mouvements, dans son sourire. Il avait une espèce d'impassibilité comme ça, qui était formidable. Et je crois qu'en fait, il a raison dans ce qu'on entend. C'est que la lenteur, c'est aussi un rapport à l'univers et au cosmos.
Ça nous ouvre à l'univers, c'est ça.
C'est ce qu'il dit, et c'est très très beau, parce que chez Claude, il y avait toujours quelque chose qui était un peu au-delà, justement, un peu transcendant, un peu cosmologique. Et oui, ça m'émeut beaucoup de l'entendre sur la lenteur. Je connaissais pas ce texte, et figurez-vous que j'ai beaucoup pensé à lui en écrivant le petit traité, donc ça me touche énormément de l'entendre.
Ce ralenti dont il vient d'être question, là, est intéressant parce que le ralenti a cette capacité d'être, je veux dire, pour le temps, ce qu'est le gros plan pour l'espace. C'est-à-dire, le ralenti, il ouvre le temps. Et en l'ouvrant, justement, eh bien, on se rend compte que ce temps n'est pas forcément un temps qui nous est imposé, qui n'est pas forcément un temps contre lequel il faut se battre parce qu'on est en retard, parce qu'on a des choses qu'il faut rendre, etc. Mais que ça peut être un temps à soi. Donc, une sorte de bulle de temps dans laquelle, justement, on peut déjà se retrouver en une sorte d'harmonie avec le rythme du vivant. Pas simplement le rythme des vivants autour de nous, mais du vivant. Alors, vous parliez de cosmos, très bien, mais du vivant, c'est-à-dire de la planète, de l'ensemble. Et donc, cette capacité à soudain, et c'est ça qui m'intéresse, c'est cette dimension intempestive de la rupture de rythme. Je crois que c'est ça la grande force, non pas de la lenteur, c'est soudain des individus ou des groupes arrivent à déchirer cette espèce de filet du temps qui s'impose à nous dans le travail, et on le voit aujourd'hui, ça déborde sur nos vies personnelles. Ces personnes arrivent, ou ces groupes arrivent à le déchirer et à inventer, alors évidemment de manière courte, mais qu'importe, des moments de vie, je dirais, vivables.
Et peut-être aussi de mieux appréhender le temps. Je crois que c'est Henri Bergson qui, avant certains de ses cours, peut-être pas tous les cours quand même, mais faisait fondre un morceau de sucre dans un verre pour qu'on ait l'appréhension justement du temps et du sucre qui prend le temps de fondre.
Tout à fait. Mais ça nous ramène aussi à la création artistique, parce qu'en musique, ces ruptures de temporalité, ces ruptures de rythme, on les a. Et là, on a parlé de cinéma. Moi, je trouve que le cinéma est un marqueur, et c'est pas pour rien que le cinéma est à la fois une fenêtre et un miroir, un marqueur incroyable de la rapidité qu'on nous impose aujourd'hui. Si vous prenez un film qui est tourné aujourd'hui, vous avez un plan toutes les 5 secondes. Vous prenez ne serait-ce qu'un Claude Sauté, ça paraît aujourd'hui extrêmement étiré. Il y a certains films de John Cassavetes, par exemple Husbands, il y a des plans qui durent, qui sont très très lents, et on n'arrive quasiment plus à regarder aujourd'hui ces films, tellement on a perdu le sens de la lenteur. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces plans, les choses de la vie, par exemple, il y a des plans de juste Piccoli qui fume une cigarette et qui ne fait rien d'autre. Et en fait, c'est des plans, bien évidemment, qui sont très lents, mais qui sont essentiels, parce qu'ils montrent quelque chose, ils sont l'essence même, d'ailleurs, du cinéma. Et on perd ça. Et la vitesse absolue, tout le temps, en permanence, nous fait perdre énormément de choses. Le sens de l'attente, mais aussi le sens de l'attention. C'est ce que disait Claude Régis aussi, c'est-à-dire que pourquoi convoquer la lenteur? Pourquoi faire parler ces acteurs plus lentement? Bien évidemment, pour convoquer de l'attention, pour convoquer un autre rapport à l'espace et pour convoquer un autre rapport à soi.
Mais demander aux acteurs de parler plus lentement pourrait demander à tout le monde de parler plus lentement. Moi, parfois, je me dis, mais alors là, j'ai pris un sacré coup de vieux, parce que je trouve que, d'une manière générale, les uns et les autres, nous parlons de plus en plus vite.
La première chose, quand on fait du média training, moi j'ai fait un peu de média training en tant que journaliste, on apprend aux gens à poser leur voix et à ne pas parler trop vite. Et les gens qui doivent prendre la parole en public et qui ne sont pas habitués et qui ont peur, le premier réflexe, c'est de parler vite. Parce qu'on a l'impression que quand on parle vite, on va s'en sortir mieux et que ça passera plus facilement. Mais ce qui est une énorme erreur, et puis ce qui est, sabré complètement, et là j'en reviens à Milan Kundera, le plaisir de parler.
Vous êtes d'accord avec ça, Laurent Vidal ?
Oui, ben, tout à fait. Il faut justement savoir, commencer à prendre la parole en silence. Imposer déjà sa présence et imposer un silence. Les silences sont tellement rares aujourd'hui. Et je vois, moi je suis enseignant, donc j'ai des étudiants. Les étudiants, ils écoutent leurs messages aujourd'hui en accélérant les messages. Et moi, je suis incapable.
Tant mieux, vous avez raison.
Mais quand quand est-ce que ils vont goûter au plaisir alors c'est un effet de génération, donc je les attaque pas, c'est vraiment un effet de génération, et il nous faut comprendre cette génération a un autre rapport au rythme qui n'est absolument pas le nôtre, mais ce temps du silence, ce temps de, je dirais, de la pause, c'est quelque chose qui pour eux est difficile, et mieux même aujourd'hui on nous explique, on a des psychologues qui nous expliquent que ces jeunes ne sont pas capables de plus de 15 minutes de concentration. La lenteur, c'est aussi une capacité de concentration.
Alors, vous parliez tout à l'heure, Mathias Leboeuf, de cinéma. Justement, Antoine Debecq, on le connaît en tant que critique de cinéma et de théâtre. Il est historien. Il a aussi publié un livre, Ma transhumance, carnet de Routeau. La Routeau, c'est un itinéraire de randonnée à travers les Alpes. Et c'est un chemin que les bêtes et les hommes parcouraient, donc, il n'y a pas si longtemps que ça, un peu plus de 50 ans, parcouraient ensemble. Et pour cela, qu'est-ce qu'a fait Debecq ? Il a marché.
Aujourd'hui, la marche est fait tellement contraste avec le rythme de vie que s'échapper tout d'un coup pendant la durée d'une marche ou la durée d'une randonnée de plusieurs heures à plusieurs jours, voire parfois quelques années pour certains grands marcheurs, s'échapper du monde contemporain, c'est quelque chose qui donne un prix, je dirais, de presque d'authenticité comme ça, et je dirais de manifeste, presque de provocation, d'un côté iconoclaste, de tout d'un coup mettre de côté le rythme de la vie sociale pour choisir de façon manifeste, de façon idéale, provocatrice aussi, celui de la lenteur, d'où les éloges de la lenteur qu'on a vus récemment et qui sont à chaque fois, évidemment, des libelles, des pamphlets contre la société d'aujourd'hui.
La marche comme une revendication, la lenteur comme une revendication, et il y a une dimension métaphysique à la lenteur. Là, quand on marche.
Ah ouais, il y a une dimension politique et métaphysique. Je ne peux que souscrire. Tous les marcheurs ont à un moment donné un rapport à la lenteur. Je pense à David Le Breton qui a écrit des très belles pages.
Qui est sociologue.
Qui est sociologue, oui, qui a écrit, d'ailleurs, je crois, un éloge de la marche et de la lenteur.
Oui, c'est ça.
C'est le titre. Bien évidemment, mais ce qui est magnifique, en fait, c'est que ça marche sur les chemins de traverse, mais ça marche aussi dans la ville. C'est-à-dire que aujourd'hui, le marcheur dans la ville, et derrière l'idée de marcheur dans la ville, il y a l'idée du flâneur. Moi, j'aime énormément la figure du flâneur, qui est une figure très 19e-iste, et qui est à la fois une figure, effectivement, un peu métaphysique, et aussi une figure politique dans l'espèce de distance un peu peut-être aristocratique, ou en tout cas dandy, qu'il prend avec la modernité et ce qu'impose la modernité en termes, premièrement, de cadence, mais aussi en termes de marchandise. Parce que derrière la cadence, il y a la question de la marchandise. Et cette figure du flâneur, est-ce qu'il y a encore des flâneurs aujourd'hui ? Est-ce qu'on arrive encore à se promener, comme disait Walter Benjamin, dans les passages parisiens, ou Baudelaire d'ailleurs, puisque c'est une figure qui a aussi hanté Baudelaire. Et le flâneur, c'est tout le contraire de celui qui fait du shopping. Alors aujourd'hui, on fait du shopping, on achète, on accumule et on ne flâne plus. Et c'est pour ça que d'ailleurs, derrière la lenteur, il y a aussi une question qu'on n'a pas évoquée, c'est la question du quantitatif au détriment du qualitatif. On valorise toujours l'accumulation et la rapidité, bien évidemment, et du côté du quantitatif, du quantifiable, celui qui lit 7 livres a lu plus que celui qui lit 2 livres en une semaine. Bon, est-ce que c'est mieux ? Pas forcément. Est-ce qu'on a plus savouré tel ou... Pas forcément non plus. Donc encore une fois, c'est vraiment la question derrière de la saveur par rapport à une valeur quantitative qui se joue aussi. Et derrière ça, il y a un rapport au monde.
Aux hommes lents et distraits, penchés sur leur trouble empire, il est donné pour secret le message d'un sourire. Laurent Vidal.
Absolument. Ici, c'est la poésie. Et nous sommes ici avec l'intuition poétique. Et ce qui m'intéresse, c'est que justement, l'intuition poétique, le jaillissement finalement de l'intuition poétique, il est souvent de la marche. Et c'est ça, c'est pas, on n'est plus dans la simple lenteur, c'est d'une certaine manière le corps est mis au lent, ouais. Et l'esprit peut justement vagabonder. Et comme le faisait Nietzsche, comme le faisait tellement de Kant, enfin tellement de philosophes et de poètes.
Laura Gaen sur France Inter, elle est en tournée le 19 février prochain, par exemple, elle sera en concert à Nancy. Comment ne pas parler de la vitesse, même si l'émission passe très vite, une émission sur la lenteur, mais comment ne pas parler de la vitesse quand on parle de la lenteur? Il y a un philosophe, Paul Virilio, qui est un grand penseur de la technologie et de la vitesse, qui d'ailleurs trouve ses racines dans l'histoire. Laurent Vidal, vous le montrez dans votre essai. La vitesse, c'est un acteur social, et c'est aussi, attention, ça peut être la transformation de l'homme en instrument.
Absolument. Et Paul citait toujours, en disant, le christianisme est une théologie de la vitesse, et il citait ce moment où Jésus entre juché sur un âne à Jérusalem. Et à partir de là, il disait, cette rencontre entre le christianisme et le capitalisme, dont nous sommes aujourd'hui les héritiers, eh bien, a érigé la vitesse, en tout cas la rapidité, hein, en seul instrument, finalement, pour juger nos actions sociales. Et pour lui, il voit surtout un risque, c'est le télescopage de nos sociétés contre, eh bien, le mur climatique, parce que d'une certaine manière, on sait très bien que si on ne ralentit pas l'activité économique, si on ne ralentit pas nos modes de vie, eh bien, on fonce tout droit dans le mur climatique. Et ça, il a très souvent alerté là-dessus.
Et donc, la vitesse et la lenteur ont à voir avec le politique, hein, Mathias Leboeuf.
Bien sûr, parce que la décroissance, c'est aussi une forme de lenteur, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, d'indispensable et qui nous relie, là encore une fois, au cosmos, bien sûr, mais à notre environnement immédiat. Donc, quelque chose de politique. On tourne toujours autour de cette notion de résistance. Moi, je pense qu'effectivement, l'être lent résiste à quelque chose de la modernité, mais pas seulement à quelque chose. C'est pas seulement pour moi une question de modernité. C'est que l'être lent, c'est celui qui peut-être se souvient ou a une forme d'intuition qu'un certain nombre de choses fondamentales sont forcément lentes. Penser, ça se fait pas rapidement.
Ça, c'est pas en lisant ou en écoutant Donald Trump que vous l'avez sorti.
Non, je vous cache pas que Donald Trump n'est pas une grande inspiration pour moi. Mais savoir qui on est, ça prend du temps. Arriver à être heureux, ça prend du temps. Et ça ne peut se faire que lentement. Arriver à savoir exactement où on veut aller, pareil.
Bien, Mathias Leboeuf, merci beaucoup. Petit traité de la lenteur à l'usage des gens pressés, c'est chez Guy Trédaniel, éditeur. Merci à vous, Laurent Vidal, Les hommes lents, résister à la modernité, donc du 15e au 20e siècle, c'est chez Flammarion. Merci à tous les deux.